cette phrase est-ce une réalité ou une idée reçue? La gauche a abandonné les classes populaires. L'origine est notamment dans un texte publié à quelques mois de l'élection de François Hollande, il y a 10 ans. Le cercle de réflexion Terra Nova, proche du Parti Socialiste, appelait la gauche à changer de stratégie électorale. En résumé, puisqu'une partie des classes populaires avait déserté la gauche pour se tourner vers le Front National, autant miser sur d'autres électeurs, les jeunes, les femmes, les minorités, les banlieues. 10 ans après, celui qui anime Terra Nova aujourd'hui tient à revenir sur ce texte dans une nouvelle note, à en préciser les tenants et les aboutissants, dire son désaccord et poser surtout cette question de quoi parle-t-on quand on parle des classes populaires. Fort intéressant et demeure cette question à moins de 6 mois de la présidentielle. La gauche, oui ou non, a-t-elle abandonné les classes populaires? 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions et réflexions. Bonjour Thierry Pêche.
Bonjour.
Directeur général de Terra Nova. Vous avez également été vice-président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi revenir sur ce texte qui date d'une époque où vous n'animiez pas Terra Nova ?
Certainement pas pour défendre ce texte avec lequel j'avais pris mes distances il y a maintenant bien des années, et j'explique les raisons pour lesquelles j'avais pris ces distances, mais parce qu'au fond...
Je précise que pour ceux qui suivent la politique, c'est vraiment un jalon ce texte, hein, et qu'il y est fait référence très régulièrement.
Tout à fait. Ouais. Non, ce qui me paraissait important, c'est de parler de tout ce que la polémique avait masqué.
Ouais.
Et ce que la polémique a masqué, c'est qui sont les classes populaires et pourquoi la politique en général et singulièrement à gauche a tellement de mal à leur parler, à faire entendre leur voix, à faire entendre leur réalité sociale. Et c'est ça qui me semble être le caillou dans la chaussure de la politique française aujourd'hui et singulièrement de la gauche.
Alors, est-ce que vous ratifiez ce constat de rupture entre une gauche qui épouserait au fond les valeurs d'un libéralisme culturel, plus vers la défense des minorités par exemple, et des électeurs populaires qui ne la suivraient pas sur ce terrain?
D'abord, les classes populaires sont diverses. Il n'y a pas une seule classe populaire, il n'y a pas un monde populaire. Une partie des ouvriers, c'est vrai, a choisi d'épouser des valeurs culturelles qui sont assez éloignées, disons, de la gauche progressiste. Mais c'est pas très nouveau, en réalité. Quand vous regardez un peu l'histoire, vous constatez que toujours la droite, et singulièrement la droite radicale, a rencontré l'adhésion d'une partie des classes populaires. Moi, le problème que j'essaye de poser, c'est... D'abord de contester au passage l'idée qu'il y aurait eu un transvasement des voies ouvrières de gauche vers l'extrême droite. En réalité, ce mécanisme est pas du tout certain. Et il faut le questionner.
Il correspond à rien du tout ou il n'est pas certain, il est moins ample que ce qu'on décrit?
Il est douteux. Il est probable que certains ouvriers aient fait ce chemin-là. Mais il est encore plus probable que beaucoup d'ouvriers se sont éloignés de la politique en général. Notamment à partir du début des années 80, les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail à cette époque s'éloignent de la politique. Et puis, il est aussi très probable, c'est ce qu'on observe dans le reste de l'Europe, qu'une partie de ces voix des classes populaires ait quitté l'offre social-démocrate pour se tourner vers d'autres offres de gauche, vers l'offre écologique parfois, ou vers le centre-droite ou les sociolibéraux de La République En Marche. Quand vous regardez les récentes enquêtes sur le vote ouvrier, vous apercevez que par exemple, Emmanuel Macron, qui passe pour être le candidat désigné de la bourgeoisie urbaine, capte une partie du vote ouvrier. Pas autant que Marine Le Pen, mais plus que la plupart des autres candidats de droite ou de gauche.
Alors Thierry Pêche, lorsqu'on dit classe populaire, on pense ouvrier. Or, ils sont devenus minoritaires dans ces catégories de population.
Absolument. Les ouvriers, c'est aujourd'hui 20% des emplois. C'est 10 points de moins qu'en 1982, c'est 20 points de moins qu'à la fin des années 50. Donc c'est un monde qui est en déclin démographique. Mais surtout, à l'intérieur des ouvriers, l'image qu'on en a, qui est l'image tutélaire presque de la gauche, c'est-à-dire l'ouvrier industriel, l'ouvrier d'usine, ce personnage social est lui-même en repli. En réalité, les nouveaux ouvriers sont des chauffeurs, des cuisiniers, des ouvriers de l'artisanat, des maçons. C'est beaucoup plus ça la réalité du monde ouvrier aujourd'hui que le monde de l'usine. Alors, on peut plaider pour la réindustrialisation, j'y suis favorable, mais c'est pas comme ça qu'on captera l'essentiel de l'attention des ouvriers d'aujourd'hui.
Et on peut s'adresser aujourd'hui globalement à une classe populaire où l'archipélisation de la société est telle qu'il n'y a plus une classe populaire entre désindustrialisation, on vient de le dire, individualisation, fracturation. De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de classe populaire?
Je crois qu'on peut continuer à parler des classes populaires parce que ce sont des gens qui ont en commun d'avoir moins de ressources économiques, moins de capital culturel et moins de protection statutaire. Ça, c'est vrai. Mais à l'intérieur de cet ensemble, les divisions n'ont cessé de s'accroître. Des divisions, d'abord, bien sûr, avec les dominés, avec les dominants, pardon, donc les classes populaires continuent à dire, oui, les riches, c'est pas nous, etc. Mais aussi des divisions internes au monde populaire, avec en particulier les pauvres, les exclus, ceux qu'on appelle volontiers les assistés. Donc il y a vraiment plusieurs mondes populaires qui sont apparus ces dernières décennies, et la politique a du mal à tenir compte de tout ça.
Je voudrais vous soumettre quelques mots dans un édito du Figaro. Hier, parce qu'au fond, il y a l'analyse et puis après, il y a, vu du point de vue des politiques, qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà l'extrait de l'édito. Avec leur diesel, leur clope, leur barbecue, leur apéro, leur rêve de maison individuelle, leur dimanche de chasse, leur zone commerciale et leur Michel Sardou, ils sont les encombrants de la République. Est-ce qu'il y a des gens dans la classe politique qui parlent à cette partie de la population qui était décrite hier dans l'édito du Figaro ?
Et qui
connaissent leur réalité.
Oui, je suis pas sûr qu'on puisse décrire les classes populaires à travers ce genre d'énumération. Ouais. Il y a bien sûr tout ça dans les classes populaires, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Ce qui est vrai, et ce qui est pénible pour quelqu'un qui attache autant de valeur que moi à la politique, c'est de voir la parole politique se désincarner autant qu'aujourd'hui. Et tomber dans, je dirais, le langage technocratique. Les politiques parlent de mesures, ils parlent de grandes catégories sociales, mais ils ne nomment pas, ou très rarement. Vous voyez, quelqu'un dont je partage pas les idées, comme François Ruffin, lui fait ce travail, justement. Oui. Mais ils sont très peu à nommer les réalités sociales. Ils parlent des employés, mais ils ne parlent pas des vendeuses, des standardistes, des nounous, des aides-soignantes, des assistantes maternelles. Ces réalités sociales, ils ne les nomment pas de cette façon. Et je crois que la politique doit retrouver cette proximité avec les réalités sociales de façon... Vous savez, représenter, c'est d'abord figurer. C'est pas seulement... briguer un mandat pour décider pour autrui. C'est aussi faire entendre la parole, la sensibilité, les attentes, les aspirations, les peurs de la population qu'on cherche à représenter. Et je crois que là, le vocabulaire politique lui-même est aujourd'hui beaucoup trop désincarné.
Est-ce qu'il faut parler d'immigration et de sécurité aussi pour parler aux classes populaires en France, au pluriel ?
Mais il faut parler de tous les sujets et ne pas croire qu'il suffirait d'évoquer cela pour attirer leur attention. Regardez la distribution à travers les sondages des voix populaires entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour capte assez peu de voix dans le monde populaire, chez les ouvriers et les employés. Marine Le Pen en capte beaucoup plus. Quelle est la différence entre les deux ? Il y en a un qui parle essentiellement d'immigration et d'insécurité, et l'autre qui parle d'immigration et d'insécurité, mais qui parle aussi des questions socio-économiques avec un discours étatiste de protection sociale qui est Marine Le Pen. En réalité, un vrai candidat populiste qui est Marine Le Pen et un candidat autoritaire qui est Éric Zemmour. Il ne faut pas croire que c'est uniquement par les questions culturelles qu'on retrouvera la confiance et l'attention.
C'est aussi par les questions économiques et sociales.
Absolument.
Dialogue avec Marc au Standard. Si Marc est bien avec nous au Standard, bonjour.
Oui, bonjour, je suis toujours là.
Nous vous écoutons.
Oui, je suis très étonné que votre interviewé ne cite pas Fabien Roussel, qui justement parle de tous ces gens, de tous ceux qui travaillent dans les caisses de Monoprix, dans les hôpitaux, enfin tous ces gens-là. Fabien Roussel en parle très précisément, et souvent il donne le prénom, parce que lui, il se contacte avec ces gens. Donc le candidat du Parti communiste, lui, parle des classes populaires et s'en préoccupe, et justement cherche les voix des abstentionnistes.
Thierry Pêche, sur cette remarque de notre auditeur.
Marc a raison, j'aurais pu aussi citer Fabien Roussel, qui en effet fait cet effort, comme François Ruffin, et malheureusement ils ne sont pas très nombreux, mais Marc a tout à fait raison de le souligner.
Avez-vous repéré dans les propositions qui émergent jusque-là à gauche des propositions de nature à faire revenir ceux qui se sont éloignés de la politique ? Citons Anne Hidalgo, la baisse des taxes sur le carburant, les salaires des profs. Citons Arnaud Montebourg qui, il y a deux jours, proposait de bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de recevoir leurs ressortissants expulsés de France. Est-ce que ces propositions-là sont de nature à renouer un lien ou pas du tout ?
Je pense que renouer
dans
le
des
lien,
registres très différents.
Oui, bien sûr, dans des registres en effet extrêmement différents. Je crois qu'il y en a une qui est plus habile que l'autre. Je pense que la question, c'est pas la question des mesures. C'est pas d'abord la question des propositions. Bien sûr que ça compte les propositions, et bien sûr qu'on va éplucher tout ça, regarder tout ça de près, et notamment on va regarder à qui profite telle mesure. Bien sûr. Mais il s'agit d'abord de changer le vocabulaire. Il s'agit de changer l'attitude politique. Et dans les exemples que vous citez, malheureusement, je ne vois pas la trace de ça.
Il y a le sociologue Pierre Blavier qui a publié récemment un livre sur les gilets jaunes qui s'appelle « La révolte des budgets contraints ». Ma question, c'est est-ce que l'épisode des gilets jaunes a renouvelé votre analyse, au fond, votre regard sur ces classes populaires? Lui décrit, s'il trouve des points communs aux manifestants qu'il a croisés sur les ronds-points, c'est leur ancrage dans les milieux de la route, soit parce qu'ils y travaillent directement, soit parce qu'ils font beaucoup de routes, les accidents de la vie et la notion de budget contraint. Une fois qu'on a dépensé tout ce qu'on était obligé de dépenser, le chauffage, le téléphone, etc., il reste quasiment rien. Voilà, ces trois points-là, le lien avec le monde de la route, les accidents de la vie et les budgets contraints. Est-ce que là, on a un élément de définition au-delà de ceux que vous avez donnés au fil des minutes, Thierry Pêche?
Je crois qu'on a trois grandes caractéristiques, en effet, des classes populaires qui sont le mieux intégrées dans l'emploi.
Dans l'emploi.
Parce que si on a besoin de sa voiture, c'est pour aller travailler, c'est donc des gens qui travaillent. Oui. Il y a aussi une partie des classes populaires qui a du mal à entrer dans l'emploi, qui n'a pas les mêmes problématiques. Mais pour, en effet, ces classes populaires qui sont les plus intégrées dans l'emploi, ces trois caractéristiques qui sont citées par le sociologue que vous avez mentionné,
Pierre Blavier,
sont assez justes, en effet. Et je veux insister sur la route en particulier. Oui. Les personnes qui font les déplacements les plus complexes et les plus contraignants sont bien sûr ces gens qui habitent loin de leur travail. Le travail, il a été polarisé par les centres-villes. C'est les métropoles qui ont capté le plus gros de la croissance de l'emploi marchand ces 20 dernières années. Et les gens modestes, en revanche, eux ne peuvent plus habiter en centre-ville. Ils sont allés chercher la réalisation de leur idéal, la propriété privée, la petite maison individuelle, loin des villes. Donc ils font les distances les plus grandes. Ils font des distances plus grandes que moi, par exemple, qui n'habite pas si loin de mon travail. Et les situations les plus complexes sont celles des femmes parmi eux. Parce que elles, en plus, elles vont chercher les enfants à l'école, elles font les courses, etc. C'est-à-dire que la répartition inégale des tâches au sein du foyer désigne les femmes comme celles qui sont les plus en difficulté chaque jour pour la vie quotidienne.
Et je mentionnais aussi les accidents de la vie, vous les citez dans votre note. Merci Thierry Pêche d'être
passé beaucoup
dans les studios de France Inter. On trouve cette note sur le site de Terra Nova.